Yeah.
Happy Hour FG.
Avec Antoine Baduel.
Star.
Mix Live.
Cadeau.
Ce soir,
Antoine Baduel invite Tilassine.
Depuis le début de sa carrière, Tilassine nous a montré qu'il était un producteur de grands espaces. Il avait besoin de partir loin pour créer sa musique. Avec son nouvel album, il a carrément voyagé dans le temps à la reconquête, à la revisite de grandes œuvres du répertoire classique. Et ça nous donne Tilassine and 74 Musicians. Tilassine est mon invité ce soir sur FG. Bonsoir William, comment tu vas ?
Salut, très bien toi ?
Mais ça va bien, tu viens de sortir un nouvel album qui s'appelle Tilassine and the 74 Musicians, qui te met en scène, toi, ta musique, entouré de 74 musiciens. Un retour aux sources en quelque sorte pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter ce projet, de mêler à la fois musique classique et électronique ? C'est la prolongation, c'est la suite logique de Timeless ?
Oui, c'est ça. C'est un peu la suite logique de Timeless. Quand Timeless est sorti, avec beaucoup d'orchestration, on s'est pris à rêver de jouer avec un vrai orchestre symphonique, avec une formation énorme comme ça. Et puis, petit à petit, ce rêve est devenu réalité. On a trouvé des gens qui étaient motivés pour le faire avec nous. Et puis voilà, c'est un album live aussi. C'est une vraie performance enregistrée comme ça. Donc, c'est un peu un rêve d'enfant réalisé.
Alors cet album, c'est un travail au microscope pour lequel tu as disséqué des grandes œuvres de la musique classique pour sampler, créer de nouveaux morceaux. C'était la proposition d'ailleurs de ton précédent album, Timeless. Comment tu as travaillé l'album ? À l'instinct, à te dire « cet élément me parle, celui-là je le garde ».
Ouais, c'est exactement ça. Et puis il y a des œuvres de classique et puis il y a un peu l'inverse. En gros, il y a des œuvres de classique que j'ai ramenées dans un univers un petit peu plus électro et il y a des œuvres à moi électroniques que j'ai ramenées aussi dans un sens plus symphonique, plus classique. Donc c'était un petit peu une sorte de rencontre entre les deux mondes comme ça, avec une version voilà très instrumentale, très humaine, très vivante, avec autant de musiciens et sur une vraie performance quoi.
Alors est-ce qu'il y a eu dans cet album comme un jeu, un but ultime, à ce que le classique Mozart par exemple finisse en hit club et de le voir passer d'un univers à un autre et quelque part de jouer à la fois avec les genres mais aussi avec les époques?
Ouais, ça m'amuse beaucoup, j'avoue. Et puis il y a un truc aussi, c'est que à l'époque la musique classique c'était quelque chose qui se vivait aussi à fond, on était beaucoup plus exaltés dans les concerts et tout. Aujourd'hui, la musique classique, elle est un petit peu, bon, là, on reste assis, on applaudit gentiment et tout ça. Donc, je trouve ça chouette aussi de ramener une ferveur avec la musique classique et de pouvoir la vivre debout, de pouvoir danser avec, de pouvoir, voilà, redonner une autre dynamique à cette musique, quoi.
Alors, ces morceaux réinventés, tu les as joués, tu les as enregistrés ensuite avec un orchestre symphonique. Alors, comment eux ont-ils vécu ce moment et cette réinvention d'œuvre qu'ils ont dû jouer des centaines de fois? Ça devait être vraiment marrant aussi, quelque part, cette rencontre du troisième type entre deux esthétiques, deux genres, mais aussi deux cultures.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment une rencontre. Donc en plus, ils ont fallu qu'ils s'adaptent un petit peu parce que ils jouaient du coup avec des casques, avec le clic dans la tête, parce que du coup moi selon comment je jouais, il fallait que ça ait un impact sur eux, leur façon de lire les partitions. Donc il y avait un vrai échange comme ça. Nous on a fait un pas en avant et eux aussi, on s'est rencontrés au milieu, ça c'était très chouette. Et puis de les voir un peu tout sourire parce qu'ils ont eu sur certains concerts avec des publics debout une énergie comme je disais qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, ça faisait plaisir de voir qu'eux aussi voyaient qu'il y avait, un vrai intérêt d'aller dans ce sens-là pour découvrir d'autres sensations un petit peu de jeu.
Mozart, Verdi, Vivaldi, autant de génies et d'œuvres qui peuvent impressionner, des œuvres marbrées, des œuvres intouchables aussi normalement. Est-ce qu'il y avait aussi de l'appréhension à sampler ces grands artistes pour te les réapproprier? Parce qu'il y a quand même c'est quand même une sacrée prise de risque, non?
Ouais, et bizarrement, je m'en suis rendu compte un peu à la fin, tu vois. C'est-à-dire que
avant la sortie.
Voilà, c'est ça, de foncer, de m'amuser, de me faire plaisir. Si je vois que le résultat, je le trouve intéressant, et ben j'avance, ça me plaît. Et puis je me rappelle, même sur Timeless, un peu avant la sortie, je me dis, ah, mais en fait, je vais peut-être me faire défoncer par les puristes de classique. Et au final, pas du tout. Au final, je suis invité dans des radios de musique classique, je suis invité à des festivals de musique classique. Donc, je me rends compte que, voilà, au final, on diabolise un petit peu le truc et il y a des ponts, il y a des portes qui sont ouvertes un petit peu partout. Et ça fait plaisir de voir ça.
Yeah. Happy Hour FG
avec Antoine Baduel.
Star Mix Live cadeau.
Ce soir,
Antoine Baduel invite Thilassine.
De retour avec Thilassine, mon invité ce soir sur FG pour nous présenter son nouvel album où il est entouré de 74 musiciens de musique classique. Alors, on en parlait, William, avec ton nouvel album. Avec toi, on s'était convaincu que tu étais un producteur voyageur à créer des albums et à sampler les sons, souvent organiques, hein, comme le Transsibérien ou les plaines en Argentine. On découvre avec ce nouvel album que tu sais aussi voyager dans le temps. Est-ce que tu dirais que la musique est forcément une évasion pour toi, que tu as besoin de quitter des modes, le temps présent pour nourrir ta créativité et ton imaginaire?
Bah c'est plutôt bien résumé. C'est vrai que j'ai besoin d'expérimenter, d'aller découvrir des nouveaux horizons. Il s'avère que ce projet est quand même aussi lié à une époque où on pouvait beaucoup moins bouger géographiquement. Hein. C'est quand même aussi un peu un bébé issu du Covid. Donc c'est une façon de répondre à ça. Voilà, je pouvais plus passer des frontières, et du coup j'ai puisé un petit peu plus dans le temps, dans une autre type d'histoire à raconter, quoi.
Alors pour toi, le mariage musique classique et musique électronique relève de l'évidence, d'autant que tu as fait le conservatoire. Ces dernières années, quelques artistes nous ont convaincus de ça, Oracles notamment. Alors pourquoi ce mélange marche si bien? Comment t'expliques que l'électro puisse se décupler avec des artistes issus du conservatoire et des musiques classiques?
En fait, moi, je me suis toujours plus retrouvé, au final, avec des compositeurs de musique classique qu'avec un groupe de rock, un groupe de rap ou de la pop et tout ça. Parce qu'en fait, dans les structures, on va avoir une liberté comme ça de partir sur des formats des fois beaucoup plus longs. Au final, ça reste un compositeur qui, dans sa chambre, va coucher quelque chose, soit sur du papier, nous un peu plus sur des ordinateurs, des synthés. Mais c'est un truc assez solitaire d'écriture comme ça. Et au final, ouais, moi, je me suis toujours senti un peu plus proche dans l'approche de la musique de ces compositeurs-là. Non pas que j'ai un ego surdimensionné pour comparer à Vivaldi, mais en tout cas dans la façon de faire, voilà, je trouve que ça me parle plus. Donc au final, il y a je pense plein de ponts qui se font relativement facilement, plus facilement peut-être qu'avec de la chanson ou des choses comme ça.
Un son binaural à 360 degrés. On sait que tu saisis toutes les innovations aussi pour jouer ta musique en live, comme dans une quête pour lui donner aussi des échos et du coffre. Les 6 et 7 mars, tu seras justement sur la scène, de la scène musicale, c'est le cas de le dire, près de Paris. Au service de quel concert? Un concentré de technologie ou alors le côté simple et épuré des instruments et justement de l'orchestral?
C'est un petit peu... Alors, c'est toujours un peu les deux, parce que justement, pour faire se marier... tous les atouts, je trouve, de la musique électronique avec un orchestre aussi nombreux, ça reste un challenge technique parce qu'il y a plus de 100 micros sur scène, il y a quand même un volume sonore où, voilà, qui nous plaît, où en face on va vraiment, on n'y va pas à moitié, on y va vraiment. Donc il y a un petit challenge là-dessus, mais l'idée c'est aussi visuellement et dans ce qu'on raconte de remettre la part à l'humain là où aujourd'hui l'intelligence artificielle on n'arrive plus à discerner du vrai du faux. Là on est tous en train de jouer vraiment. Il y a un truc un peu fort de voir autant de gens comme ça sortir de la musique d'instruments en cuivre ou en bois. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très très beau à voir.
Alors par contre, au-delà de la scène musicale, tu vas aussi faire le Théâtre Antique de Vienne. D'ailleurs, toutes nos félicitations parce que c'est un temple du classique et probablement un repère de puristes. C'est pas trop flippant à l'idée de présenter ces réinterprétations dans un lieu aussi symbolique et connoté en matière presque de dogmatisme musical?
Jusqu'ici, ça allait bien, mais maintenant que tu l'as dit, je vais commencer à...
Non, mais il est réputé pour ça, ce théâtre antique.
Non, mais bien sûr. J'ai eu l'occasion de faire d'autres...
Ne m'accuse pas de t'avoir porté la poisse, hein, William.
Non, le fait est que j'adore jouer dans des théâtres antiques parce que...
Ouais, bien sûr.
C'est une formation géniale. Tout le monde peut être debout et voir de partout. Nous, on voit le public, mais vraiment de partout. On sait pas, comme à un grand hall où au bout, ils sont obligés de faire 2m10 pour voir quelque chose. Il y a une sorte de vision et même d'un point de vue sonore. C'est fait pour, c'est pas pour rien. J'adore ces lieux-là. Donc voilà, j'ai peut-être un petit peu d'appréhension, mais aussi une hâte parce que je sais que ça fonctionne dans ces lieux-là et que moi, je m'y amuse beaucoup en tout cas.
Le son que tu produis nous rappelle aussi celui de nos amis Fakir, Superpose, mais aussi d'artistes comme Fortet, Fred Again, quand il crée avec Brian Eno. Est-ce qu'il y a une nouvelle tendance autour de ces sonorités? Est-ce que c'est ton sentiment? Est-ce que tu crois que le public est plus réceptif qu'avant? ou demandeurs justement de nouvelles expériences et de nouvelles approches esthétiques.
Oui, je pense qu'aujourd'hui la musique électronique, elle est plus cantonnée à un genre, au club, au fait de faire la fête à 3h du matin. Ça y est, les portes se sont ouvertes, on sait que c'est une façon de composer qui est différente, qui est plus moderne, que dans la musique électronique, il y a plein de choses et on peut tout y trouver, je pense, et que nous aussi, on a envie, moi, j'ai pas envie de rester cantonné à des synthés et tout, même si c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes propres morceaux. J'ai envie de me servir de tous les outils qu'on peut avoir en musique. Donc maintenant, je pense qu'on se prive pas d'aller voir un petit peu ailleurs, de tout mélanger. Moi, c'est ce que j'adore avec la musique électronique, c'est une musique sans frontières. On peut vraiment tout mélanger, du jazz, de la musique de film. Enfin voilà, c'est sans limite, je trouve.
Mozart, Verdi, Vivaldi et tant d'autres, le producteur Tilassine qui vient de sortir son nouvel album Tilassine and the 74 Musicians qui revisite les grandes œuvres de la musique classique, un nouveau mariage électro-symphonique que vous allez pouvoir savourer sur scène. Tilassine sera notamment à la scène musicale près de Paris, ça sera les 6 et 7 mars prochains. Merci William, c'était un plaisir de t'avoir, comme d'hab.
Avec plaisir, merci.